Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Mathéo.
Oui, bonsoir Caroline.
Bonsoir et bienvenue.
Merci beaucoup de m'accueillir. On a eu l'occasion de se parler juste avant les fêtes de fin d'année 2020, donc.
Oui. À quel sujet alors ?
En fait, concrètement, j'avais vécu 10 bonnes années avec quelqu'un et j'avais rencontré un autre homme pour qui j'avais eu un coup de cœur. Et cette relation se terminait et j'étais dans un vrai chagrin d'amour et je vous avais appelé parce que je savais pas très bien comment gérer cette peine qui m'accablait juste avant les fêtes.
Vous aviez rencontré ce garçon peu de temps après vous êtes marié, non ? C'est bien ça ?
C'est ça, exactement.
Oui, je me souviens.
C'est ça, voilà. Après m'être mariée, je l'avais rencontré. On avait perdu le contact parce que, bon, je venais de me marier, donc il n'était pas question de mettre à mal cette union. Et puis, ben, on s'était retrouvés quelques années plus tard. Lui avait déménagé, était revenu. Donc, et quand on s'est revus, ben, c'était comme une évidence. Et cette fois-ci, j'avais pris la décision d'aller au bout de ce que je voulais entreprendre. Et donc, on a vécu ensemble, on s'est pacté, j'ai d'abord pris mon appartement, on a ensuite vécu ensemble dans le sien uniquement. Mm-hmm. Et très vite, on s'est rendu compte que malgré des sentiments et l'attirance qui nous liaient, on était très différents l'un de l'autre par rapport à nos... lui était très plutôt quelqu'un de solitaire, d'introverti, aucun ami. Bref, quand j'ai aucun ami, c'est vraiment pas d'amis du tout. Oui. Moi, un peu plus extraverti, donc on était vraiment un peu le feu et la glace. Bon, malgré tout, je me disais, on peut être très différent et ça peut marcher malgré tout.
D'accord. Et vous êtes resté parce que quand vous m'aviez appelé, vous étiez, vous veniez de rompre.
Oui.
Vous êtes resté combien de temps ensemble ?
On est resté 18 mois.
18 mois, d'accord.
On a rompu on a décidé de rompre 6 mois après nous être pacsés, en fait.
D'accord. Et donc en décembre, vous étiez dans un chagrin d'amour.
Oui.
Aujourd'hui, comment allez-vous ?
Eh bien, au départ, je me suis efforcée de reprendre un peu pied, de trouver un nouvel appartement, parce que j'avais rendu mon appartement pour vivre avec lui. Donc, mon énergie d'abord a été concentrée sur la recherche d'un nouvel appartement.
Vous avez trouvé ?
Que j'ai trouvé très rapidement.
D'accord.
Tout début janvier, donc j'ai déménagé le 2 janvier, donc c'était pas... mes amis ont été courageux d'accepter de m'aider à déménager un 2 janvier.
Remarquez, on n'a pas fait grand-chose cette année, le 31.
Non.
Ils étaient plus frais peut-être que les autres années.
C'est sûr. Et il y a un état de tristesse qui s'est installé de jour en jour, en fait, et je ne me rendais pas très bien compte à quel point j'étais mal, en fait. J'étais vraiment très très mal. Et pour moi, bon, je l'ai imputé à mon chagrin d'amour. C'était normal d'être mal quand on perd quelqu'un qu'on aime.
Quand on se sépare, bien sûr.
Et il y a un soir où j'ai avalé deux tubes de somnifères.
Ah bon ?
Et juste après, donc, j'ai toujours resté en contact avec mon ex-mari qui est resté je dirais même pas que c'est un ami, c'est comme quelqu'un de ma femme. On est très proches, il n'y a pas d'ambiguïté entre nous, mais on dit tout. Et je lui ai envoyé un message pour dire que je le remerciais pour tout. Et ce n'était pas dans mes habitudes de lui faire ce genre de choses. Et il avait le double de mes clés parce que moi, je ne suis pas très à l'aise de mes mains. Donc, c'est lui qui m'aidait à m'installer, qui montait mes meubles pour que je puisse être bien où j'étais. Ce qui est assez gentil puisque il aurait pu me lâcher.
C'est très gentil.
C'est extrêmement gentil de sa part et naturellement il aurait pu me dire débrouille-toi, t'es un grand garçon. Et il m'a retrouvé donc le lendemain dans le coma.
Mais il devait venir le lendemain ou votre message l'a interpellé?
Pas le moins du
monde. Il a senti que...
C'était ses messages, ouais. Il s'est dit quelque chose ne va pas. Il m'a écrit en fait très tôt le matin parce que voilà, il se réveille très tôt parce qu'il travaille dans une entreprise où il est censé travailler très tôt. J'ai pas répondu. Il s'est dit quelque chose ne tourne pas rond. Mm. Et comme il avait heureusement le doute de mes clés, il m'a retrouvé inanimé chez moi. Donc,
donc il a tout de suite prévenu les secours.
Il a prévenu les secours qui m'ont amené aux urgences.
Oui.
Et les urgences m'ont trouvé. Enfin, j'étais dans un état clinique assez sérieux, donc ils m'ont amené en réanimation. Donc j'ai passé une semaine dans le coma. Et donc quand je me suis réveillée, le médecin m'a dit « Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là ?» Et oui. Je ne savais pas ce qui s'était passé en fait, parce que je n'avais pas du tout prémédité ce qui s'était passé. À aucun
vous
moment.
Vous aviez quand même absorbé de tubes
mammifères. Oui, bien sûr, mais j'avais complètement oublié.
Vous aviez oublié au sortir du coma, ouais. Oui. Mais c'est quand ça, vous les avez absorbés, ces somnifères, vous vous souvenez
Oui.
C'est revenu qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête?
J'étais dans une tristesse j'étais dans une mélancolie terrible.
C'est ça.
Et je me suis dit, j'ai besoin de dormir pour oublier et de m'anesthésier, en fait.
Oui, c'était pas forcément mourir, vous vouliez en fait vous anesthésier, plus souffrir et dormir. Ouais.
Je me suis dit, je vais dormir un ou deux jours et j'irai mieux après. C'était devenu insupportable en fait, cette souffrance.
Oui. Vous souffriez beaucoup, beaucoup trop.
Oui. Donc je me suis réveillée, j'ai passé plusieurs jours sous surveillance. Ça a été assez compliqué, assez presque humiliant parce que j'avais été sédatée, donc j'arrivais plus à, j'étais intubée, des infirmières faisaient ma toilette, c'était très compliqué, c'était vraiment vraiment très très particulier, c'était très difficile.
Vous n'êtes pas passé loin, il y a malheureusement des personnes comme vous qui n'ont pas toujours derrière un désir de mourir, mais simplement de ne plus souffrir et qui dit je vais dormir. Mais prendre comme ça des médicaments en grande quantité, on bascule dans le coma et on peut ne pas se réveiller, malheureusement. Vous le dites bien, vous êtes passé en réa, vous avez été intubé, c'est très lourd.
Ah le médecin le médecin qui est venu me l'a dit.
Si votre ex-mari...
Il a manqué de très peu de choses. Hein. Oui. Si mon ex-mari n'était pas là, je pourrais pas vous parler aujourd'hui, clairement.
Il est venu vous voir, votre ex-mari?
Bien sûr, en fait, ce qui s'est passé, donc quelques jours après, quand j'ai repris un petit peu, parce que avec la sédation, j'étais un petit peu ankylosée, j'avais une jambe qui était un peu paralysée, j'étais un petit peu, j'avais pas tous mes moyens, et puis je délirais un peu parce que j'avais été sédatée avec des choses assez puissantes. C'était ou bien l'hospitalisation. Ou bien la possibilité d'entrer à domicile, puisqu'ils avaient compris que je n'étais pas dans une volonté de mourir.
Dans une très grande souffrance, quand même.
Oui, mais avec la certitude que quelqu'un serait avec moi pour...
S'occuper, veiller sur vous, c'est ça, ne pas être seul. Ouais.
Donc, j'ai eu un entretien avec un médecin psychiatre pendant un petit moment. Qui m'a dit, écoutez, je vous autorise à rentrer, mais à condition, effectivement, que j'ai dit, mon ex-mari serait prêt à passer du temps avec moi et à vivre avec moi le temps que je me remette. Donc, il a accepté, donc elle l'a contacté, il a confirmé qu'il était d'accord pour prendre cette responsabilité de revenir avec moi.
Oui,
pendant quelques temps. Oui. Donc il a été à la fois précieux parce qu'il m'a sauvé la vie et il m'a accompagné pendant deux bonnes semaines après ce qui s'est passé pour...
Oui, il est vraiment très prévenant, il est très attaché à vous certainement encore.
Oui, il n'y a plus d'ambiguïté, on dormait dans le même lit.
Oui, vous comptez beaucoup pour lui,
parce que
j'ai bien compris, pas dans le sens amoureux, en ce qui vous concerne, Mais lui, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de fiable en tout cas.
Absolument, oui. Je peux compter sur lui, clairement. Et donc, j'ai eu le besoin, alors non pas pour le faire culpabiliser, parce que je me dis que si j'ai été amené à faire ça, c'est parce que j'avais une fragilité et que j'avais des choses à régler avec moi-même. J'ai eu besoin d'écrire à mon ex-compagnon avec qui j'ai vécu un an et demi, lui dire ce qui s'était passé quand même.
Oui.
La seule chose qu'il m'a répondu, c'est « je te souhaite un prompt rétablissement ». Moi, j'ai trouvé ça, mais d'une froideur assez terrible. Je ne m'attendais pas à des...
Enfin, oui, une formule un peu de convenance. Enfin.
Ah, c'est terrible. On en avait parlé en décembre. Il a toujours été avec un air très, très, très clinique avec moi. Enfin, c'était terrible. Et il avait mon chat, donc...
Pourquoi il a gardé votre chat ?
Parce que quand on s'est séparés, il gardait mon chat. Et puis donc 2 semaines plus tard, après que je sois rentré, enfin une fois que j'allais mieux, je lui ai dit « Écoute, j'aimerais à présent récupérer mon chat, je vais mieux, il est peut-être temps de le récupérer. » Et là, il m'a dit « Écoute, non, il est heureux avec moi, ça le perturberait d'être avec toi et je voulais te dire que je t'aime depuis toujours et que t'es l'homme de ma vie. » Et on a fini par se revoir et là, ça fait quelques semaines, enfin 2-3 semaines qu'on se revoit.
D'accord.
On a passé la Saint-Valentin ensemble, on passe tous nos week-ends ensemble. Et naturellement, mes amis ne le comprennent pas du tout. Ils me disent que je... Enfin, ils ne me comprennent pas.
Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, vos amis ?
Ils se disent, mais tu te rends compte de ce qui s'est passé, à côté de quoi tu es passé, tu as failli mourir, et tu te comportes comme un amoureux transi avec lui.
Oui, en même temps, c'est pas lui, vous le dites bien, enfin, on ne peut pas l'incriminer en disant qu'il est responsable de ce passage à l'acte. Comme vous dites,
non, bien sûr que non.
Ça a été il y a eu ce chagrin de la séparation. Après, il y a des fragilités qui sont venues, qui sont remontées et qui vous ont amené à ce passage à l'acte. Mais bon, après, ce qui interroge, je comprends aussi que vos amis, ils sont inquiets pour vous, ce qui est compréhensible. Puisque cette relation, en tout cas la rupture, vous a énormément fragilisé.
C'est ça. Ils se disent, mais ça va recommencer.
Ben oui, c'est compréhensible. Ils s'inquiètent pour vous, en fait.
Mmh, ouais. Complètement.
Comment ça se passe quand vous êtes avec lui ?
Quand je suis avec lui, physiquement, il est extrêmement tactile, très doux, très... on retrouve une complicité. Enfin, c'est comme s'il ne s'était rien passé. En revanche, quand on n'est pas ensemble, c'est toujours moi qui suis à l'initiative d'envoyer un message. J'ai un message par jour, donc ce qui n'est pas extraordinaire.
Mm-hmm.
Par rapport au rythme, enfin, on vivait ensemble, donc forcément, mais juste 2-3 mots par jour, c'est pas grand-chose. Il n'est pas très démonstratif sur le plan textuel, alors que moi, je suis plutôt du genre à écrire quelques lignes et à des romans, mais à être très démonstratif. Donc, il a à la fois cette facette quand je suis avec lui où il est très tactile, très câlin, et puis quand on n'est plus ensemble, il est très, très distant, il met des limites.
Mais c'est-à-dire qu'il vous laisse, il laisse vos messages sans réponse ?
Il me laisse jamais sans réponse, mais ça peut être juste 2 mots, et quand je montre à mes meilleurs amis, ils disent pas ce que j'écris, mais quand je leur montre une photo d'écran, par exemple, de nos conversations, ils vont voir 15 lignes de ma part et puis 3 mots de sa part, et ils se disent il y a quand même un même problème.
Mais il est peu expansif, c'est ce que vous disiez.
C'est ça.
Quelqu'un de... bon,
voilà. Et puis on est resté paxé. Je lui ai dit écoute, si tu veux, on se dépaxe. Juste après la séparation, je lui ai envoyé par courrier le dossier. Pour qu'on puisse dissoudre le PACS, il ne l'a pas fait. Il me dit qu'il ne souhaite pas le faire, mais qu'en même temps, il ne souhaite pas qu'on se déclare fiscalement. Donc, je lui dis, ou bien on se déclare ensemble, ou bien on se dépaxe, et il ne me répond pas.
Ce n'est pas trop le moment de parler de ça, je crois. Vous avez d'autres choses à régler.
Je sais bien.
Je pense que...
Pour moi, ça a un sens parce que cette union, c'était aussi la concrétisation de quelque chose. Je lui dis, c'est pas qu'une feuille d'impôt. Pour moi, c'est.
Oui, mais pour le moment, franchement, Mathéo, la priorité, c'est d'aller mieux. Et là, déjà, quand on est en bonne forme, c'est pas très évident, ces démarches. C'est toujours un peu compliqué, un peu douloureux. Et là, on n'allait pas au-devant de choses qui seraient peut-être difficiles à assumer. Enfin, c'est pas la priorité. Depuis votre sortie de l'hôpital, puisque vous dites à l'hôpital, on a accepté de vous laisser sortir, à la condition, bien sûr, que pendant quelque temps, vous soyez avec quelqu'un qui puisse veiller sur vous. On vous a donc proposé un suivi. Enfin, même pas proposé, on vous a fortement recommandé.
On m'a obligé à un suivi.
Évidemment.
J'avais déjà un psychiatre qui me suivait depuis mon divorce.
Bon. Donc vous continuez avec ce psychiatre?
Je le vois toutes les semaines.
Donc il a été au courant de ce qui s'est passé, de votre hospitalisation?
Il a été assez... Enfin, il est comment dirais-je, il est consultant aux urgences, donc j'ai entendu sa voix en fait quand il était là, mais il n'a pas voulu venir. Il a souhaité que c'était une de ses consoeurs qui vienne parce que lui me connaissait trop bien, donc c'est pas lui qui est venu me faire l'entretien de sortie. J'ai un psychologue également désormais que je consulte pour traiter le front, parce que c'est vrai que le psychiatre, c'est très succinct, hein, je le vois 15 minutes.
Il vous prescrit le traitement, d'accord. Il voit
c'est un prescripteur, mais en même temps, il a une réticence à me prescrire des choses. Il me dit, vous êtes quand même passé à l'acte avec un antidépresseur.
Oui, c'est très embêtant pour un médecin, oui. Quand on sait qu'un patient passe à l'acte avec les médicaments qu'il prescrit, c'est sûr.
C'est ça, il me dit, si malgré l'antidépresseur, vous êtes passé à l'acte, je m'interroge sur la pertinence de continuer à vous le prescrire.
Oui, c'est compréhensible.
Donc voilà, j'ai 3-4 rendez-vous par semaine.
Vous en parlez avec donc le psychologue qui vous suit de cette relation?
Oui, il est au fait. Assez étrangement, je reviens très souvent sur le présent et sur ce qui se passe en ce moment, mais il revient très très vite sur le passé, sur mon histoire, sur mon enfance. Il revient sur le... Il essaie de comprendre un peu qui je suis et ce qui m'a constitué.
C'est normal, qu'est-ce qui...
Il rebondit très très peu sur les événements du présent, alors que...
Il est dans son rôle. Si vous voulez, surtout quand il y a un passage à l'acte, on sait que le présent sert de détonateur, mais qu'en fait les racines, elles sont à chercher dans le passé. Donc il ne répond pas il ne répond pas, il n'est d'ailleurs pas là pour répondre, mais sur votre relation présente... Vous pouvez lui dire que vous auriez besoin peut-être d'un quelque chose de plus actif, si vous sentez, si vous avez besoin d'être soutenu sur le plan de cette relation. Vous pouvez lui en parler. Vous avez essayé ?
Par rapport à mes amis, pas encore, non, parce que j'ai... Avec mes amis, je les comprends. Je me dis, si j'étais à leur place, sans doute que j'aurais la même réaction, mais je...
C'est-à-dire que le problème, Mathéo, c'est que vous ne pouvez pas... actuellement, vous êtes quand même très fragile, encore.
Oui.
Et cet homme dont vous me parlez, vous ne pouvez pas vous en servir comme point d'appui pour aller mieux.
Il est très peu empathique, c'est assez fou.
Non, mais le problème, justement, c'est que c'est cette relation-là peut vous fragiliser encore un peu plus. Vous ne pouvez pas faire reposer votre équilibre sur cet homme.
Bien sûr.
Et c'est le risque actuellement. Et lui prend un très grand risque aussi, je trouve, en revenant vers vous. Alors qu'il sait ce qui s'est passé, même s'il n'en est pas évidemment le responsable, il y a toujours plusieurs raisons comme ça dans un passage à l'acte. Mais néanmoins, il devrait, s'il le fait à ce moment-là, être d'autant plus attentif.
Il n'en parle jamais, à aucun moment, il ne m'en parle.
Mais oui, mais et pas plus qu'au fond, enfin, si j'ai bien compris, vous êtes revenus ensemble sans, comme si de rien n'était.
Ça, oui.
Et c'est ça qui ne va pas, Mathéo. Parce que vous vous étiez quitté à un moment donné, parce que même si vous avez beaucoup de sentiments pour lui et de désir pour lui, et réciproquement, vous êtes très différents. Ce sont vos mots. Et qu'à un moment, la vie en commun était compliquée. Et finalement, est-ce que cette relation vous rendait heureux ?
Eh bien, il m'a dit notre vie commune était un désastre. Un jour, il me l'a écrit. Il m'a juste écrit notre vie commune était un désastre. Mais je me sens plus malheureux sans lui qu'avec lui, alors que j'étais pas complètement comblée avec lui. Donc je me dis, quel est le plus grand mal en fait ?
Mais je pense que votre souffrance, elle vient de plus loin. C'est pour ça aussi que votre psy vous amène à parler de vous, essaie de mieux vous connaître au-delà de cette relation. Et c'est important que vous puissiez, alors évidemment, en parler de cette relation, mais parler également de vous. Et là, je trouve un moment où vous êtes, quand même, où la priorité, c'est de mettre tous les éléments de votre côté, de vous appuyer sur des gens fiables et rassurants. Il y a quand même un certain danger à renouer dans une relation qui, vous l'avez bien dit, la tristesse s'était installée. Vous n'en aviez pas mesuré l'ampleur, mais ça a été une lame de fond à un moment, qui a tout emporté.
Oui.
Bon. Donc là, vous me dites aujourd'hui, finalement, il est très peu empathique. Ses messages, vous les trouvez très très succincts. C'est-à-dire que vous cherchez auprès de lui une consolation que vous ne trouvez pas, me semble-t-il.
Non, c'est vrai.
Donc... et qui peut vous faire replonger un peu plus bas.
C'est vrai.
Par son absence, comment dire, en tout cas, de soutien effectif, même si quand il est avec vous, il est très câlin, mais enfin, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, semble-t-il, a du mal de toute façon. Vous me dites que c'est quelqu'un de solitaire, qui n'a pas d'amis, très introverti. Donc, il ne peut peut-être pas parler. Il ne sait pas peut-être parler. Le problème, c'est que justement, il y a quand même une responsabilité à revenir vers vous et à renouer vers vous dans un moment où vous êtes, vous, si fragile. Je ne sais pas s'il en mesure, lui, les conséquences. Si lui ne les mesure pas, vous, il faut que vous pensiez à vous.
Oui.
Et être, en ce moment, il vaut plutôt mettre de côté tous les points d'appui. Votre ex-mari en est un. Évidemment, je ne parle pas là. J'ai bien compris que de votre côté, vous n'étiez plus du tout amoureux. Mais en tout cas, il a été là. Alors, vous ne voulez peut-être pas vous appuyer sur lui parce que vous voulez peut-être un peu le préserver.
Oui, aussi, je me dis qu'il a tellement fait pour moi.
Il a fait beaucoup pour vous, je suis d'accord avec vous.
Il a même peut-être fait plus qu'il n'aurait dû le faire. Donc,
Enfin, non, parce que déjà... il vous connaît bien, il a senti qu'il y avait quelque chose d'un appel au secours, au fond, dans le message que vous lui avez laissé.
Bah, clairement.
C'est clairement. Bon, clairement un appel au secours. Il est venu, il était là, il a fait heureusement. Sinon, vous ne seriez pas là en train de me parler aujourd'hui.
C'est vrai, oui.
Bon. Alors, l'autre garçon vous dit, bon rétablissement. C'est un peu court. Mais en même temps, on peut comprendre qu'il se protège. Parce que, au sortir d'une rupture, apprendre que la personne avec que l'on a aimé, avec qui on a vécu, fait une tentative de suicide, c'est profondément déstabilisant. Parce qu'on peut se dire, mince, c'est moi qui ai déclenché une telle tristesse, un tel chagrin. Même si, encore une fois, je le redis, heureusement, toutes les personnes qui vivent des séparations n'en arrivent pas à ce point de souffrance qui leur fait vouloir tout arrêter. Mais s'il était conscient de cela, peut-être qu'il se protégerait et vous protégerait un petit peu plus en vous disant, au fond, Mathéo, la priorité, c'est pour le moment bien te soigner, que tu retrouves vraiment ton équilibre, ta force, ton équilibre psychologique, et on verra à ce moment-là. Donnons-nous du temps. Or là, il rebascule en vous disant « je t'aime, vous ne parlez de rien, vous repartez de plus belle, Mais, à nouveau, il s'absente, il vous laisse comme ça. Bon, il ne change pas dans ce qu'il est, au fond.
Non.
Et ce n'est pas vous qui allez le faire changer. En revanche, vous, quand vous irez mieux, finalement, quand vous serez en pleine possession de vos moyens, y compris psychologiques, c'est-à-dire moins affaibli, moins vulnérable, vous pourrez, à ce moment-là, voir si vous désirez repartir dans cette relation. Mais là, tout ça, dans cet état de fragilité, c'est quand même pas sans risque, pour vous, je trouve. Hein.
Bien sûr.
Et c'est pour ça que je comprends la réaction de vos amis, qui tiennent à vous.
Comment je devrais me comporter, selon vous, auprès de lui? Enfin, est-ce que je devrais être un peu plus sur mes, donc, sur mes réserves ou...
Ben oui. Bah, c'est-à-dire que je trouve que lui, c'est presque lui qui devrait dire ce que je viens de vous dire dans ce contexte.
Oui, qui devrait mettre la distance. Oui,
bah, oui, enfin, en disant, évidemment, que, enfin, d'ailleurs, il n'en parle même pas, au fond. C'est comme si ça n'avait pas eu lieu.
Ça, voilà, pour lui, ça n'a pas existé, il n'en parle jamais.
Oui, mais c'est ça qui est problématique.
Et ça semble gêné dès que j'en parle avec lui. Donc,
Bah, parce qu'au fond, il ne dit rien là-dessus.
Non. J'ai jamais eu un seul mot, que ce soit par texte ou même en physique.
C'est pas normal.
Rien.
Alors, il est peut-être dans l'impossibilité de dire, au fond, c'est-à-dire que face à ça, il se sent démuni, il n'a pas les mots. Mais même quand on n'a pas les mots, on peut réfléchir, penser et se dire, je ne peux pas faire n'importe quoi avec ce garçon. Je ne dis pas qu'il fait n'importe quoi avec vous. Mais en tout cas, dire, bon, peut-être donnons-nous du temps. Or là, ce qui m'inquiète un peu pour vous, comme vos amis d'ailleurs, c'est que vous replongez, quoi. Il y a mi-janvier, il y a un mois, vous étiez dans le coma. On savait pas si on allait vous tirer d'affaire. Et un mois plus tard, vous replongez tête baissée. Enfin, vous ne vous protégez pas là, comme si au fond de ce garçon dépendait. Votre équilibre et votre avenir.
Absolument, oui.
Or, là, quand on est passé par ce à quoi vous êtes passé, on est fragile et pas vraiment en état de décider vraiment ce qui est bon pour nous ou pas. Et là, ce garçon, ce qui vous fait vivre, ses silences, peut-être sa froideur, vous ramène à quelque chose qui vous blesse, en tout cas qui vous meurtrit. C'est ce que vous me dites, au fond.
Ça me blesse énormément, oui.
Bon. Donc, actuellement, vous êtes déjà suffisamment meurtri, suffisamment triste. La tristesse, elle n'est pas partie comme ça, hein.
Et c'est
pour ça aussi que votre psy vous amène, essaie de savoir au fond qui vous êtes. Qu'est-ce qu'il y a eu dans votre passé, dans votre histoire, comme personne, au fond, vous vous accrochez à quelqu'un qui peut-être vous aime, ça je ne peux pas revenir là-dessus évidemment, mais en tout cas qui n'est pas rassurant. Or vous semblez, et particulièrement en ce moment, c'est logique, avoir besoin d'être rassuré. Et en tout cas, Mathéo, quand une rupture nous plonge dans un tel état de détresse, c'est que ça renvoie à des choses, à des histoires de notre passé, où il y a des séparations qui ont été mal vécues. Vécues comme des abandons, et vécues comme dans des moments où on avait le sentiment qu'on n'allait pas pouvoir se relever. Parce que une rupture, même si ça rend triste et malheureux, ça n'amène pas à vouloir, voyez, comme vous dites, être dans un tel état de souffrance qu'elle envahit tout et qu'on se dit « je vais absorber les médicaments que j'ai sous la main et dormir ». Donc, évidemment, et vous aussi, au fond, lui ne parle pas de ce qui s'est passé, et vous, avec lui, vous faites comme s'il ne s'était rien passé. Or, ce qui s'est passé compte et n'est pas anodin.
Oui. C'est sûr.
Donc, voilà. Moi, après, je ne peux pas...
C'est loin d'être anodin, hein. Clairement. Ça me
c'est pas anodin.
Toujours.
Bien sûr que c'est pas anodin.
La sidération était terrible. Bon, elle est toujours là, mais je, tous les jours, je me rends compte de ce à côté de quoi je suis passée.
Oui. Oui, et quand même, alors là, cette rupture, certainement, réveille en vous des choses que pour le moment, vous n'avez pas encore fait remonter à la surface, mais certainement des histoires, dans votre histoire, dans votre parcours, des séparations qui ont été mal vécues.
Oui.
Et le travail que vous allez faire va vous permettre un peu d'explorer ces zones-là de fragilité et de vous renforcer. Et actuellement, puisque vous me demandez votre avis, mon avis, en fait, j'étais en train de penser que même si je vous le donne, c'est vous qui êtes à votre place et pas moi. Et que, bon, je sais bien que dans ces moments-là, on n'entend pas toujours. Mais je pense que pour le moment, il ne faut pas aller vers des choses qui risqueraient de vous fragiliser davantage.
Oui.
Et je ne suis pas sûre que cette relation actuellement, dans ce que vous me dites qu'elle est, soit un ancrage et un point d'appui solide.
Ah, clairement pas, non. Non. J'ai un peu le sentiment que c'est un écran qui efface ma tristesse.
Momentanément.
Qui apaise, ouais, c'est un peu comme un anxiolytique. Quand je suis avec lui, ça a l'effet d'un anxiolytique.
Oui, mais quand il n'est plus là.
Mais quand il part, tout me revient.
C'est le vide. Et qu'est-ce qui vous revient ? Qu'est-ce qui vous revient ?
Ma tristesse, ma solitude, ce qui s'est passé.
Oui.
Et j'essaie de le voir le plus possible, mais malheureusement, il ne souhaite pas me voir
et
plus
non, mais Mathéo, vous voyez bien, c'est-à-dire que cet homme, c'est quand vous êtes avec lui, tout s'apaise. Il y a un écran de fumée.
Le sommeil, hein, je dors très mal. Les seules fois où je dors correctement, je fais une nuit complète, c'est quand je suis avec lui. Donc, je lui dis, mais tu m'apaises, en fait. C'est comme un anxiolytique, ouais.
Oui, mais on ne peut pas demander à l'autre d'être un médicament. Il n'a pas à jouer cette fonction-là. Ça veut dire que c'est dans une relation où il y a un profond déséquilibre. Donc là, actuellement, il faut vous appuyer sur ce que l'on vous donne, sur ce psychiatre qui vous suit, sur ce psychologue que vous voyez, avec qui vous parlez, pourquoi ce sentiment de vide intérieur, de solitude si présent. Et petit à petit, en parlant, vous allez vous renforcer.
Oui.
Et être moins dans cette sensation de vide. Mais là, et d'ailleurs, même au vu de ce que vous me dites, quand je vous dis qu'on ne peut pas demander à l'autre d'être un médicament, l'autre peut s'en rendre compte inconsciemment. Et ça pousse plutôt à s'éloigner qu'à être présent.
Je comprends.
Vous voyez ? Donc, pour le moment, en fait, vous avez tout dit, Mathéo. C'est que vous avez besoin d'être entouré, que l'on prenne soin de vous, que vous vous soignez, et d'être particulièrement entouré de personnes qui ne vont pas vous faire vaciller. Et les amis sont précieux.
Oui, j'ai la chance d'en avoir, oui.
Hein, les amis, vous en avez, qui sont précieux, qui s'inquiètent pour vous, à juste titre. Là où ce garçon, encore une fois, je ne le connais pas, il ne s'agit pas de le mettre en cause. Il n'est pas responsable de votre état de souffrance, lui tout seul. Mais vous lui demandez quelque chose au fond d'impossible aussi. Et peut-être quand vous irez mieux, quand vous vous serez renforcé, vous verrez à ce moment-là. Et peut-être que d'ailleurs la relation avec lui, du coup, sera différente aussi. Parce que vous n'en serez plus dans un besoin de lui, même physiquement, comme un petit enfant qui a besoin de bras, d'être rassuré, de consolation. Vous voyez ? Quand vous irez mieux, vous pourrez davantage vous situer comme un homme vis-à-vis d'un autre homme, dans une relation amoureuse. Mais pour le moment... Mais pour le moment, c'est le constat que vous faites et qui est bien. Enfin, c'est normal. Il y a encore trop de fragilité. Donc, protégez-vous.
Je lui ai demandé de laisser son débardeur de pyjama. Enfin, j'ai besoin d'avoir sa présence, de le sentir. Ça me rassure. C'est comme un doudou. Enfin, c'est comme un enfant. Oui.
J'entends ça, que vous avez ce besoin-là, mais ce ne sont pas les bases d'une relation amoureuse et affective, voyez. Là, vous avez besoin, et vous le dites, oui, de, comme un petit enfant, de, quand on est mal, on a besoin que l'on s'occupe, vous avez besoin que l'on s'occupe de vous. Et peut-être, d'ailleurs, au vu de cela, ça serait bien de ne pas être seul chez vous et d'avoir une présence à vos côtés. Alors, ça peut être dans la famille, auprès d'un ami, pendant quelques temps, le temps que vous puissiez à nouveau avoir moins peur d'être seul. Vous voyez, oui. Quelqu'un qui veille sur vous, mais qui n'est pas dans le cadre d'une relation amoureuse.
Oui.
Qui prend soin de vous. Et si ce n'est pas possible dans votre entourage, votre psy, vous en avez parlé, il faut savoir aussi qu'il y a toujours la possibilité d'une hospitalisation, si vous vous sentiez un peu à nouveau plus fragile.
Oui.
Bon courage, Mathéo, et prenez
Merci
soin de
vous.
Merci
Caroline. Merci infiniment.
Au revoir.
Au revoir.
RTL.
Jusqu'à minuit 30.